Le journal, Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Les premiers transferts de patients Covid ont débuté ce matin en Île-de-France. 3 malades ont été acheminés en hélicoptère vers des hôpitaux de l'Ouest. Un nouveau protocole sanitaire mis en place depuis ce matin dans les EHPAD. Les résidents vaccinés vont pouvoir retrouver leurs proches et une vie sociale. Hélène Chevalier dans un instant. Nouveau retard de livraison des vaccins AstraZeneca. Le groupe est confronté à des difficultés de production. Le gouvernement français espère que l'objectif de 10 millions de vaccinations sera dépassé. C'est au 15 avril. Renaud Muselier, président de la région PACA, souhaite ouvrir la vaccination aux jeunes de 18 à 25 ans. Dans ce journal également, du rugby et le tournoi des Six Nations avant la rencontre Angleterre-France cet après-midi à Twickenham. La cérémonie des Césars hier soir et la prescription culture du week-end avec le roman Sang et stupre au lycée de Cathy Hacker. La météo, une nouvelle perturbation avec de la pluie et du vent aujourd'hui. Jean-Michel Golinski à la fin du journal et à 13h20. Secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Un nuage radioactif qui survole Tahiti en 74, des militaires français eux aussi victimes de cancer. Nous essaierons de voir à la lumière de nouveaux documents ce qu'ont vraiment été les essais nucléaires français en Polynésie.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
La vaccination va donc permettre dès aujourd'hui aux résidents des EHPAD de retrouver une vie sociale. Un nouveau protocole sanitaire est en place depuis ce matin. Les règles sont assouplies et les personnes âgées, protégées par le vaccin, vont pouvoir prendre leurs enfants dans les bras et leur parler sans barrière et sans plexiglas. Il s'agit, Hélène Chevalier, d'une première phase d'assouplissement.
À partir d'aujourd'hui, tous les résidents sont autorisés à sortir de leur EHPAD et à recevoir dans l'intimité de leur chambre, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés. C'est au directeur de l'établissement d'apprécier avec son équipe si la situation sanitaire le permet. Contrairement aux personnes vaccinées, ceux qui n'auront pas reçu d'injection devront être testés avant et après et maintenus à l'isolement pendant 7 jours à leur retour. Selon Florence Arnaise-Momé, déléguée générale du SINERPA, le syndicat des EHPAD privés, les professionnels du secteur ont dû batailler pour qu'il n'y ait pas de discrimination.
Alors il faut savoir que toute la semaine, nous avons négocié avec les pouvoirs publics, car le clivage entre vaccinés et non vaccinés était beaucoup plus significatif. Dans le premier projet, nous avions quand même des résidents vaccinés qui avaient les droits de vie normale, tandis que les non vaccinés n'avaient quasiment aucun droit.
L'ensemble des fédérations salue ce nouveau protocole qu'elles réclamaient depuis plusieurs semaines, mais elles s'accordent également sur le fait qu'il s'agit d'une première étape. Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, espère encore plus d'assouplissement.
Il faut rendre une totale liberté aux personnes âgées vaccinées. Il y a encore des restrictions sur les distances dans les repas. Pendant les repas, les personnes âgées étant vaccinées, il faut qu'ils puissent manger normalement comme tous les Français.
Autre bémol, le secteur aurait aimé un peu plus d'anticipation de la part du gouvernement. Le protocole a été diffusé hier soir pour une application dès ce samedi. Les directeurs d'EHPAD vont maintenant devoir gérer le flot de demandes des familles, ravis de pouvoir enfin sortir. Leurs proches.
Hélène Chevalier. Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie, explique que ce protocole est un début, le retour à une vie plus normale pour les résidents vaccinés. On l'écoute.
Ce que nous voulons, c'est que la vie sociale qui était arrêtée, et dont peut-être les gens n'ont pas conscience, parce qu'il y a eu beaucoup de gestes privés, même de chambre, de confinement en chambre, tout ceci doit maintenant reprendre une vie normale, parce que ce sont des résidents qui le disent. Moi, on m'a dit, vous savez, j'ai 90 ans, je fête mon anniversaire. Bientôt, je veux embrasser mes petits-enfants et j'ai le droit de le demander. Voilà, ce sont des résidences, ce ne sont pas des établissements hospitaliers, c'est peut-être ce qu'on a perdu de vue parfois, même s'ils sont des pathologies lourdes. La vaccination empêche la forme aggravante de la maladie, elle n'empêche pas la circulation du virus, c'est pourquoi nous sommes extrêmement prudents et que nous avons trouvé cette procédure d'allègement souple, mais aussi une clause de revoyure tous les 15 jours pour faire un bilan avec les acteurs, bien sûr, pour remettre à niveau parfois ce qu'il faudra faire.
C'est pas paradoxal un peu ce qui est en train de se passer dans les maisons de retraite françaises, en sachant que l'Italie, là, va reconfiner une grande partie du pays?
Mais ça n'est en rien paradoxal puisque ce sont des personnes vaccinées. Nous nous adressons bien à des personnes qui sont donc couvertes, qui attendent donc un retour positif pour elles. Et nous ne parlons que de mesures sociales normales que toute personne aujourd'hui est en droit d'attendre et a le droit de faire d'ailleurs. Nous ne faisons que redonner une vie normale à ces personnes, tout simplement, avec tous les gestes de protection. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous sommes en pleine responsabilité, avec aussi la possibilité de fermer les établissements qui sont atteints d'un cluster, bien sûr. Mais en aucun cas, on ne tient pas compte de la situation, bien sûr.
Brigitte Bourguignon avec Édouard Marguier. Et si la rigueur du protocole sanitaire s'allège donc aujourd'hui dans les EHPAD, la préoccupation maintenant concerne les services de réanimation des hôpitaux d'Île-de-France. Trois premiers patients Covid ont été transférés ce matin d'Île-de-France vers des hôpitaux de l'Ouest à Nantes, Angers et au Mans. Transfert en hélicoptère. Quatre autres patients seront transférés demain dimanche. Pour les médecins, il y a urgence à agir pour soulager les hôpitaux qui reçoivent un nouveau malade du coronavirus toutes les 12 minutes en Île-de-France. Les services de réanimation sont en très grande tension. Le professeur Stéphane Gaudry du service de réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny expliquait hier qu'il refusait quasi systématiquement les patients qui arrivaient du SAMU 93, faute de place en réanimation. Les premiers transferts ont donc débuté ce matin, Nathalie Delpera.
Tous viennent de la région parisienne et ils vont être répartis dans trois hôpitaux différents, Le Mans, Angers et Nantes. Ces transferts se font par hélicoptère. Pour cela, il faut que les patients soient dans un état stable et que les familles aient donné leur accord, précise Frédéric Annet, le directeur du SAMU de Seine-Saint-Denis. L'Ouest a été choisi parce que le virus y sévit moins. Au Mans, par exemple, il n'y a que 6 patients en réanimation contre plus de 1000 malades dans les services franciliens. Ces transferts vont se poursuivre demain. 4 autres patients devraient arriver. Pour l'instant, cela reste des évacuations au compte-gouttes. Des transferts par TGV pourraient permettre de déplacer plus de patients en même temps, mais cela demande une grosse logistique selon le patron du SAMU de Seine-Saint-Denis et ce n'est pas prévu avant le milieu de la semaine prochaine.
Nathalie Delpera, urgent pour la plupart des médecins. Ces transferts représentent malgré tout un inconvénient de taille, selon Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU d'Avicenne-Bobigny. Il mobilise beaucoup de personnel et les soignants sont épuisés. Christophe Prudhomme, médecin et délégué CGT avec Mathilde Bouquerel de France Bleu Paris.
Alors que nous manquons de personnel, que les personnels sont fatigués, ces transports mobilisent des médecins urgentistes, des infirmiers, des infirmiers anesthésistes, des ambulanciers, beaucoup de personnel pour transférer le patient dans des TGV. Ils sont exigus. Il faut savoir qu'un patient de réanimation, c'est un patient qui est intubé, donc il y a un respirateur, il y a un appareil de surveillance cardiaque, il y a ce qu'on appelle des pousses-seringues pour injecter les produits d'anesthésie. Donc vous imaginez, c'est-à-dire un patient de 70 kg, il se transforme en une charge de plus de 100 kg. Donc vous imaginez toute la logistique en termes de moyens, tant logistiques que humains.
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et délégué CGT à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Alors, parallèlement au transfert des patients Covid, la question d'un confinement en Île-de-France et de ses 12 millions d'habitants n'est plus exclue. Le Premier ministre Jean Castex déclarait hier soir lors d'une visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière « Nous devons nous tenir prêts à prendre toutes les mesures que la situation appellerait en Europe, en Italie, face à la hausse des contagions. » Le gouvernement du nouveau président du Conseil, Mario Draghi, n'a pas eu d'autre choix que de placer la quasi-totalité du pays en zone rouge. À partir de lundi, Olivier Tosseri, l'Italie sera reconfinée partiellement.
Espoir et sacrifice, ce sont les deux mots répétés par Mario Draghi aux Italiens pour les encourager à redoubler d'efforts dans la lutte contre le coronavirus. L'espoir est suscité par l'augmentation du nombre de vaccinations qui a doublé en mars par rapport à février. Mais le gouvernement insiste sur les sacrifices avec une hausse de 15% des contagions en une semaine et des services de soins de thérapie intensive des hôpitaux au bord de la saturation. À partir de ce lundi, la quasi-totalité des régions italiennes est placée en zone rouge, soit le niveau le plus élevé de risque correspondant aux restrictions les plus drastiques. Des mesures qui resteront en vigueur jusqu'au 6 avril prochain. Les écoles, les bars, les restaurants et tous les commerces non essentiels resteront fermés. Les déplacements seront limités aux impératifs de santé et de travail. J'ai conscience que ces mesures auront des conséquences sur l'éducation des enfants, sur l'économie et sur notre état psychologique à tous, a reconnu Mario Draghi. Elles sont acceptées avec résignation par près d'1 Italien sur 2. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Et concernant la vaccination, Jean Castex explique ce matin espérer que l'objectif des 10 millions de personnes vaccinées au 15 avril sera dépassé, même si les laboratoires nous font quelques misères, dit-il, dans les délais de livraison. Et au même moment, à Londres, le groupe AstraZeneca annonce de nouveaux retards de livraison de son vaccin à l'Union européenne. En raison de problèmes de production, AstraZeneca réduira ses livraisons au premier trimestre, mais également au deuxième trimestre. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, était l'invité ce matin du 6-9 d'Éric Delvaux et de Patricia Martin. Il demande que la vaccination soit étendue maintenant aux jeunes de 18 à 25 ans.
La logique, elle est assez simple. Si nous avons, comme convenu, prouvé le fait que d'ici le mois d'avril, il y a à peu près 37 millions de doses qui seront totalement livrées en France fin avril. Ça veut dire que si on a ces doses livrées, ça veut dire qu'on aura vacciné les 17 millions de personnes qui sont des populations à risque, qui sont les plus en danger et qui sont donc ceux-là mis de côté, protégés. C'est les personnes dont on a entendu tout à l'heure qui retrouvaient la vie à 80 ans. On peut pas accepter que ceux de 20 ans ne puissent pas faire la même chose. Et donc nous avons les vaccins Johnson & Johnson qui arrivent. Il y en a 2,7 millions de doses. Ça fait exactement le nombre de la population étudiante en France et c'est la moitié de la population des 18-24 ans. Eh bien, redonnons la possibilité à ces jeunes de reprendre leurs études, de finir leurs examens et d'avoir une année scolaire qui revienne à la vie normale et de passer un été tranquille. Souvenons-nous de ce que nous faisions entre 18 et 25 ans.
Renaud Muselier avec Éric Delvaux. À l'étranger, en Israël, des scandales de violences sexuelles choquent le pays. Après le grand écrivain Amos Oz, aujourd'hui décédé et accusé de violences domestiques par sa fille, une autre personnalité israélienne est gravement mise en cause. Selon le journal de gauche, Haaretz, Yehuda Meshi Zahav a agressé sexuellement et violé des adultes et des enfants. Yehuda Meshi Zahav est le fondateur d'une organisation de secourisme, Zaka, parmi les plus renommées d'Israël. Son aura est comparable à celle de l'abbé Pierre en France. Hier, alors que la police israélienne ouvrait une enquête, Yehuda Meshi Zahav a renoncé au prix Israël, reçu au début du mois, un des prix les plus prestigieux du pays. Il a aussi quitté ses fonctions à la tête de Zaka, Frédéric Mettezo.
Témoin d'un épouvantable attentat en 1989 à Jérusalem, Yehuda Meshi Zahav crée Zaka. Ce juif ultra-orthodoxe souhaitait que les morceaux des corps des victimes soient tous ramassés pour une inhumation qui respecte la tradition juive. Mais Zaka est aussi devenue une organisation de type Croix-Rouge ou protection civile, des ambulanciers, des secouristes, tous ultra-orthodoxes, et son fondateur, de 61 ans aujourd'hui, est devenu une figure familière et respectée, un religieux qui a établi des ponts avec la société laïque. Mais les témoignages recueillis pendant plus d'un an par Haaretz sont détaillés et accablants. Les faits supposés les plus anciens remontent à 1983. 6 témoins au total, hommes et femmes, l'accusent de viol ou d'attouchement quand ils étaient adultes ou enfants. Yehuda Meshi Zahav dénonce des témoignages vagues et anonymes et une collusion entre Haaretz et des ultra-orthodoxes qui le trouveraient trop ouvert. Selon nos informations, son entourage voulait qu'il se présente à la présidence d'Israël en juin prochain. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
On revient en France avec une élection sans vraiment beaucoup de suspense à la Fédération française de football. L'Assemblée générale de la Fédération française vient de réélire ce matin Noël Le Graët, 79 ans. Noël Le Graët, à la tête de la Fédération depuis 10 ans, repart pour un mandat de 4 ans. L'événement du jour en sport, c'est le tournoi Destination de rugby. Souviens-toi, l'automne dernier, comme le titre le journal L'Équipe, l'équipe de France de rugby s'était inclinée d'un rien à Twickenham en finale de la Coupe d'automne des Nations, 22-19 après prolongation. Revanche, cet après-midi, Angleterre-France dans le tournoi Destination, le fameux Crunch. Un match toujours particulier. La France est toujours en piste pour le Grand Chelem. L'Angleterre, en revanche, a déjà perdu 2 fois en 3 rencontres. Et les Anglais, tenants du titre, sont à la peine depuis le début de l'année, au point, Richard Place, qu'ils ne sont pas favoris même dans leur antre à Twickenham.
Pas de grand chelem ni même de victoire finale, les Anglais ont déjà raté leur tournoi. La seule embellie possible est donc de faire trébucher les Français, stopper l'irrésistible progression de ces bleus conquérants. Alors, back to basics et travail minutieux de préparation, dit le troisième ligne Mark Taylor.
On a fait nos devoirs sur eux. Nous sommes prêts au défi, notamment avec les individualités qu'ils ont en attaque. Aldrit est excellent balle en main, tout comme le capitaine Olivon. On est impatients.
Eddie Jones est sévèrement critiqué par la presse anglaise. On reproche aux sélectionneur un jeu triste et limité et jusqu'ici de s'appuyer toujours sur les mêmes joueurs, même s'ils ne sont pas en forme. Pour le match d'aujourd'hui, il a donc consenti quelques changements. Son étude poussée du jeu français lui permet aussi de dire ce qui l'impressionne le plus chez eux.
L'organisation tactique, ils pratiquent ce jeu au pied long dès qu'ils sont dans leur moitié de terrain. Et ensuite, ils se créent des opportunités pour attaquer la ligne dans vos 50 mètres. Là, ils peuvent compter sur le talentueux Dupont. Et défensivement, ils sont très bons.
Une Angleterre outsider, on en oublierait presque qu'elle joue à domicile, certes dans un Twickenham sans public, qu'elle est tenante du titre, vainqueur de la Coupe d'automne des Nations et vice-championne du monde il y a moins de 2 ans. Londres, Richard Place, France Inter.
Angleterre-France, coup d'envoi cet après-midi à 17h45. En retour sur la cérémonie des Césars hier soir à l'Olympia à Paris, le grand gagnant, Albert Dupontel, pour son film Adieu les cons, triomphe avec 7 récompenses, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. L'autre gagnant de la soirée, Sébastien Lifshitz, et son film Adolescente, Sébastien Lifshitz, a suivi pendant 5 ans le quotidien de 2 amies lycéennes de Brive-la-Gaillarde. Il obtient 3 Césars, meilleur film documentaire, meilleur son, meilleur montage. 3 récompenses que le réalisateur a dédiées à la jeunesse sacrifiée en raison de la pandémie. Sébastien Lifshitz, réalisateur d'Adolescente, propos recueillis par Corinne Pellissier.
Pour moi, en fait, Adolescente, c'est vraiment un film qui parle de la jeunesse d'aujourd'hui. Le film s'est arrêté juste avant la crise du Covid. Et aujourd'hui, quand je pense à Emma et Anaïs qui se prennent cette crise sanitaire en pleine figure, évidemment, je m'inquiète et je pense à elles et à ce futur, voilà, qui les attend. Elles sont inquiètes, elles ont un rapport même au temps présent qui est pas simple. Et à travers elles, j'ai l'impression que le film finalement parle de toute cette génération où tout semble fragile, précaire, instable, et que cette crise est venue encore plus aggraver, en fait. Emma parfois m'appelle et elle me raconte qu'elle est déprimée. Et à travers elle, je pense, voilà, à tous ces jeunes, en fait, qui souffrent vraiment beaucoup en ce moment.
Sébastien Lifshitz, réalisateur du film Adolescente aux 3 Césars avec Corinne Pellissier. La prescription lecture du week-end avec un roman Sang et stupre au lycée de Cathy Hacker. L'autrice, une figure de la contre-culture américaine des années 70-80, est vénérée par Virginie Despentes. L'ouvrage, déjà paru en France en 2005, vient d'être republié et c'est un choc et un événement, Ilan Amand Youssef.
Dérangeant n'est pas un mot suffisant. On lit les premières pages et le cerveau s'affole, il refuse de comprendre. Une sorte de court-circuit dont s'amuse l'éditrice de Cathy Hacker, Laurence Vialet.
C'est vrai que le premier choc qui demande qu'on revienne sur ses pas de lecteur, c'est qu'on n'est pas sûr de bien comprendre ce qu'elle nous relate dans les toutes premières pages du livre, puisqu'elle relate sur le mode d'un vaudeville blasé, façon soap opera, une rupture amoureuse entre une fille et son père, sachant que c'est la fille qui poursuit de ses ardeurs un père qui n'en veut plus. Effectivement, on est très très perturbé.
Sang et stupre au lycée suit les tribulations et les infortunes de la jeune Jenny. Mais le cadre romanesque explose en une multitude de formes. Poésie, dessin pornographique, carte des rêves, dialogue, journal intime.
C'est un foisonnement formel absolu. Elle va réécrire Stéphane Mallarmé, César Valero, Keats. Elle rencontre Jean Genet avec lequel elle s'enfuit à Tanger. Elle se réapproprie son panthéon littéraire, ses canons littéraires, sachant que ce sont souvent des textes d'hommes.
Cathy Hacker rend hommage et dynamite en même temps à sa manière d'ancienne élève des meilleures écoles, devenue un temps stripteaseuse. Jenny, son héroïne, est une sorte de Justine contemporaine lâchée dans les rues de New York.
Sang et stupre au lycée de Cathy Hacker, traduit par Claro et publié aux éditions Laurence Vialet. On termine avec une surprise ou une frayeur pour les habitants de la région de Strasbourg. Pour la première fois, un jeune loup a été aperçu à plusieurs reprises cette semaine au nord de Strasbourg. L'animal a été vu déambulant à proximité des villages de Berchtet et Guggenheim, le long de la ligne TGV. De nombreuses photos et vidéos du loup ont été publiées sur les réseaux sociaux. Alain Laurent, fondateur du réseau indépendant l'Observatoire des carnivores sauvages, estime que ce jeune loup est probablement de passage. Alain Laurent avec Marie Maheu de France Bleu Alsace.
Alors évidemment, c'est une première dans une zone de plaine, bien que ce soit absolument pas inhabituel. Le loup est une espèce relativement plastique, on va dire. Elle s'adapte à tout type de milieu, donc on peut évidemment autant observer le loup en montagne que dans des zones de plaine, des zones de culture. On est en période post-hivernale ou début du printemps où ces animaux dispersent et vont des fois courir de longues distances pour rechercher un nouveau territoire. En l'occurrence, la population actuelle dans le Grand Est n'est pas très importante, donc il est probable aussi que cet individu-là aille bien au-delà.
Alain Laurent du réseau indépendant, l'Observatoire des carnivores sauvages. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Une zone de temps très turbulent avec de la pluie, des giboulées et des bourrasques de 80-100 km à l'heure traverse le pays du nord vers le sud. Elle épargnera les régions du sud-ouest jusqu'en soirée. Le quart sud-est, quant à lui, va rester à l'écart, mais il faudra tenir compte du vent fort entre la Corse et le continent. Les températures dans les moyennes vont afficher cet après-midi 10 à 15 degrés d'une large moitié nord au sud de la Garonne ainsi qu'en Rhône-Alpes et 16 à 18 près de la Méditerranée. Demain, le Mistral, la Tramontane et les rafales d'ouest sur la Corse seront très forts, maintenant un ciel dégagé sur les régions méditerranéennes. Du nord-est au Savoie, sur les Pyrénées et le Massif central, la neige va tomber en quantité à partir de 800 mètres d'altitude. Des averses vont survoler le quart sud-ouest, le centre et le nord de la Seine, tandis que plus à l'ouest, le soleil prendra souvent l'avantage.
Jean-Michel Golinski de Météo France.